Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Ravili Lemel. Rav Lemel, bonsoir à vous. Et Purim Sameach.
Purim Sameach.
Quel plaisir de dire ce mot merveilleux. Bonne fête de Purim. Ben d'ailleurs, on va, comme on le fait chaque semaine, étudier notre paracha, le passage qu'on étudie dans nos communautés. Et là, on arrive à Kitissa, mais on sait que la paracha de la semaine est toujours liée à son contexte. Et donc là, quel lien ont vu les Chachamim, ou vous voyez, sur le lien entre notre paracha de cette semaine et la fête de Purim?
Alors c'est vrai que... On peut trouver un certain nombre de liens, hein, clairement. Moi, ce que j'aimerais, c'est d'abord rappeler un petit peu, donc, Purim, qu'est-ce qui se joue? Purim, c'est donc tout l'enjeu de, eh bien, tout simplement, de l'histoire du peuple juif quand il va se retrouver en exil. Hein, c'est la confrontation au problème de ces décrets qui sont là pour dire ben, les Juifs dérangent, il y a un peuple qui est dispersé, mais surtout, eh bien, dans le problème, ce qu'on va retrouver, c'est quoi? C'est la place de certains personnages et à qui on ne veut pas donner la place. Et un de ces personnages, eh bien, on fait un petit peu allusion à lui dans la paracha, d'accord? Il s'agit de Mordechai. En effet, le Talmud, dans le traité de Megillah, essaie de voir si on ne parle pas un petit peu des protagonistes de l'histoire de Purim dans l'histoire, dans la Torah. Alors, Esther, on trouve le verset, c'est un verset très lourd d'ailleurs, « Vanochi Aster Astir Panay », quand Dieu dit « Moi, je voilerai ma face ». Donc, il y a déjà cette notion-là. Et puis, Aman, c'est « Hamina Etz, est-ce que de l'arbre duquel je t'ai demandé de consommer, tu as consommé ?» Alors, chaque fois, ça serait un développement passionnant. Et puis, Mordechai, eh bien, c'est justement... Vous savez que dans la paracha, on va parler de la fameuse ktoret, vous savez, ces encens qu'il fallait faire brûler dans le Mishkan, dans le sanctuaire, et puis après dans le Beth Amikdash, dans le temple. Et puis, on donne la composition. Il y a un moment, eh bien, un des éléments qui compose, c'est Mordechai. Mordechai, c'est ça, un des composants de cette ktoret, de ces encens, c'est Mordechai, Mordechai. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'homonymie des termes, mais on dit, ben voilà, voilà, vous voulez trouver Mordechai, il est là. Alors, vous comprenez bien que les maîtres du Talmud, ils ne s'amusent pas à faire des homonymies, des... Voilà, on dit, bon, ben, au fond, ouais, c'est pas mal, ça ressemble, alors c'est là. Évidemment qu'il y a des choses beaucoup plus profondes qui se jouent. Et Mordechai, justement, eh bien, c'est quelqu'un qui apparaît dans la ktoret. La ktoret, c'est quoi? La ktoret, ce sont ces encens qui vont brûler dans le Mishkan, sur ce misbeach ktoret, sur un autel particulier, sur un autel en or. Et... Au fond, c'est quoi cette idée de ktoret? Alors, elle est multiple, mais je vais dire quelque chose de très simple au fond. La ktoret, c'est quoi? C'est avant tout eh bien, des composantes qui sont tirées de végétaux, qui sont rassemblées ensemble, qui sont pilées, qu'on met avec des braises, et puis il y a une fumée odorante qui sort de là, et puis au fur et à mesure, eh bien, les différents végétaux qui la constituent disparaissent. Et puis, quand vous rentrez dans la pièce, eh bien, vous sentez l'odeur, mais vous ne voyez plus la ktoret en tant que telle. Elle a disparu, elle a été brûlée, il y a eu une combustion, mais néanmoins, cette odeur, elle est là, elle reste. Et au fond, elle reste alors qu'il y a quelque chose qui a disparu. Et c'est quoi, au fond, l'idée de la ktoret? C'est être conscient de la présence d'une chose, même si elle n'est pas complètement visible. Et au fond, c'est un petit peu ça, l'histoire de Mordechai, autour de quel tout va tourner à Purim. Mordechai, c'est au fond le maître par excellence, c'est celui qui véhicule la parole de la Torah, au fond c'est celui qui véhicule la parole divine. On dit bien que Chacham Adif Minavi, qu'un sage a une dimension supérieure à celle du prophète, parce que le sage va acquérir le savoir qui lui permet et à la fois d'être dans un contact particulier avec le divin et en même temps d'appréhender les choses de manière beaucoup plus vaste, alors que le Navi, le prophète, C'est quelqu'un à qui on envoie une révélation. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le racham, c'est vous et moi. J'espère d'ailleurs qu'on a tout petit peu rachamim, même si on a encore beaucoup, 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 beaucoup de travail à faire. Mais le racham, c'est un individu. Et être prêt à accepter qu'il véhicule quelque chose de non visible, qui est au fond la parole d'Hachem, n'est pas simple. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que, eh bien, au fond, il ne dit que ce qu'il pense lui, alors qu'il y a derrière la présence non visible du Créateur, mais qui est là réellement. Et c'était ça tout le problème, au fond, à Pourim. Quand Mordechai arrive et dit, vous savez, il y a quelque chose qui doit être très clair, on ne peut pas assister au fameux festin, on ne peut pas aller à cette invitation d'Achashverosh, il faut surtout pas y aller. Ce qu'il dit, c'est une parole pas logique, c'est une parole pas normale, c'est antipolitique, c'est antilogique. Et pourquoi on va l'écouter? Pourquoi est-ce qu'on devrait l'écouter? On ne peut l'écouter que dans la mesure où on est capable d'entendre dans ses mots la présence du divin, c'est-à-dire de savoir que Dieu est là dans les mots qu'il prononce, même si au fond, et on le sait parfaitement, Dieu n'est pas visible. À la limite, ça serait le prophète. Alors le prophète arrive avec sa révélation prophétique. Alors il y a quelque chose d'autre, puisqu'on sait que quand il reçoit sa prophétie, il y a quelque chose de particulier qui se passe même au niveau de son état. Donc là, ça ne peut être que Dieu qui parle, comme si au fond, un peu, on voyait presque Dieu. Alors que le Chacham, c'est le Rav, c'est le maître qui est là et qui dit, je vous dis ce qu'il faut faire. Mais on n'a pas l'impression que Dieu est présent. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas intéressés à entendre dans sa parole, eh bien, la parole divine. Et ça a été ça, au fond, le point central de l'histoire de Pourim. Et on voit bien d'ailleurs que le Talmud, dans le traité de Shabbat, va dire que, eh bien, Kimou ve Kiblou Yehudim, les Juifs vont recevoir à nouveau la Torah à Pourim. Ça veut dire quoi? À Pourim, ils vont recevoir vraiment la Torah. C'est-à-dire l'acceptation des paroles des Chachamim, l'acceptation des paroles des sages, l'acceptation d'une parole qui provient de quelqu'un qui est un être humain comme moi et qui ne semble pas véhiculer à travers quelque chose d'exceptionnel une révélation, mais qui a une parole divine qui s'exprime à travers lui de par la Torah, qui fait corps véritablement avec son existence. Être prêt à accepter ça, être prêt à l'entendre, c'est quelque chose qui n'est pas simple. C'est quelque chose qui est très difficile, à l'image de cette ktoret. La ktoret, on te dit, c'est vrai, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien, mais sans l'odeur. Si tu sens l'odeur, c'est que quelque part, il y a eu ici quelque chose d'extrêmement concret. Cette chose extrêmement concrète, c'est la présence d'Hachem à travers l'étude, qui maintenant s'exprime à travers la bouche du Chacham, à travers la bouche des maîtres du peuple juif. Ça va être donc déjà un premier point. Et puis, il y a évidemment, par la suite, dans cette paracha, un autre événement qui n'est pas simple du tout, qui est le moment dans lequel, eh bien, le clan d'Israël, va fauter. Ça va être la faute du veau d'or. Et vous savez que là-bas, il y a un texte qui est très curieux. Quand Dieu voit que le clan d'Israël a fait cette faute, il dit à Moshe, Lech red ki shichet amra, va et descends, car ton peuple a fauté. Alors, descends. Mais évidemment, il est sur le Sinaï, il ne peut que descendre. Alors, une lecture qui dit, descends du haut niveau qui est le tien, il va falloir que tu les rejoignes pour les remonter à la surface. Mais le terme de red est constitué de deux lettres, resh et dalet. Or, pour ceux qui savent lire l'hébreu, et nombreux sont les auditrices et les auditeurs qui savent lire, eh bien, quand vous regardez les lettres red, resh et dalet, elles se ressemblent très fort. Le dalet, c'est une barre horizontale et une barre verticale à angle droit. Le resh, c'est une barre horizontale et verticale, mais ce n'est pas un angle droit, c'est légèrement courbé. Et il y a un texte du Talmud qui nous dit quelque chose de très curieux. Il nous dit, lorsqu'un sopher, lorsqu'un scribe est en train d'écrire un Sefer Torah, il doit faire très attention à ce qu'une mouche ne vienne pas mettre les pattes dans l'encrier, car elle risquerait de transformer la lettre dalet en resh, et ça serait une destruction. Ça veut dire quoi? Vous savez que le Sefer Torah est écrit avec des lettres qui ont toutes le même calibre, sauf certaines. Certaines lettres dans le Sefer Torah sont plus grandes ou plus petites. Or, à un moment, il y a la lettre Dalet qui est plus grande. Vous savez où? Dans le texte du Shema. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute, Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est un, Echad. Echad, c'est Aleph, Chet, Dalet. Et il y a un autre mot dans lequel les deux premières lettres sont identiques, mais la troisième n'est pas la même, c'est le verset dans lequel il y a marqué « Tu ne te prosterneras pas le El Acher vers un autre Dieu ». Le mot « Acher », ce sont les mêmes lettres que le mot « Echad ». Alefret, la troisième lettre, ce n'est pas un dalet, c'est un resh. Et disent nos maîtres, si la mouche vient et sur le dalet de Hachem Echad, le Dieu éteint, elle met un moment un petit peu d'encre en plus, eh bien on ne lit plus « Écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est unique », mais « Écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est Acher », c'est d'autres divinités. On a ici quelque chose d'incroyable. Pourquoi ? Parce que la mouche, ça représente quoi ? La mouche, vous savez, quand vous prenez un fruit, eh bien, vous ne la retrouverez présente que là où il y a une toute petite ouverture sur le fruit. Si le fruit était fendillé à un endroit, si une petite ouverture, la mouche ira là-bas, comme sur une plaie, sur une peau saine, la mouche ira chercher l'endroit où il y a une petite plaie, une petite ouverture, parce qu'elle inocule là-bas ses saletés, et à partir de cela, eh bien, la pourriture, malheureusement, peut s'installer. Et nos maîtres de dire, attention, car si à un moment, on ouvre une petite porte, eh bien, le Echad de Dieu peut devenir un moment Acher, parce que la mouche vient et fait pénétrer quelque chose qui, au bout d'un moment, transforme tout. Or, ce qui s'est passé à Pourim, c'est quoi ? C'est exactement ça. À Pourim, ils ont dit, mais non, oui, c'est vrai qu'on va aller au festin d'Achashverosh. Oui, c'est vrai que là-bas, on va exposer, voire même utiliser les ustensiles du temple. Bon, mais ok, ça fait partie des choses, c'est pas si grave. Par ailleurs, nous sommes acceptés, par ailleurs, le repas est cachère par rapport à ceci, tout va bien. Bon, après, il y aura un début d'orgie peut-être, mais bon, ça va. C'est comme la mouche, l'ouverture est minime. On n'a pas l'impression qu'il va se passer grand-chose. Et après, c'est la catastrophe. Et c'est peut-être ici la seconde chose qui nous lie Pourim à cette paracha. Savoir qu'en effet, le Zevouv, et on sait, les maîtres du Talmud nous disent que le Zevouv, cette petite mouche, c'est Amalek. Et Amalek, eh bien, c'est qui ? C'est Aman, Aman Agagi. Eh bien, elle est là, et ça commence par une toute petite histoire. On va assister au festin, on va se dire, mais au fond, c'est pas si grave. Mordechai, qui est justement Mordechai, qui est ce souffle de la Torah, cette odeur de la parole d'Hachem, non, ça on n'écoute pas. Nous, on a tout compris. Et malheureusement, on voit ce qui se passe par la suite, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, quand le clan d'Israël comprend où a été son erreur, quand le clan d'Israël réalise que ce que l'on croyait être quelque chose de pas si important a été le point de départ d'un processus beaucoup plus complexe, que ici, la parole des Chachamim était une parole qui nous permettait de mieux comprendre quelque chose qui nous paraissait être incompréhensible, alors à ce moment-là, véritablement, Pourim émerge, Pourim arrive, c'est la Geoula Shlema, c'est la libération finale. Et c'est peut-être ça aussi un de nos enjeux aujourd'hui. Écoutez, les Chachamim, c'est quoi aujourd'hui ? C'est pas suivre à droite et à gauche, c'est au moins écouter le message principal, l'importance de l'étude de la Torah, l'importance de l'accomplissement des mitzvot, l'importance d'être à l'écoute des autres, l'importance de vouloir donner aux autres, l'importance de ne pas faire de médisance, l'importance de juger positivement, l'importance de vouloir progresser dans le Shabbat, dans tous ces domaines. Allez, à la limite, on ne va même pas leur demander leur avis sur la politique, mais au moins sur ce qui va être un élément déterminant dans l'histoire du peuple juif, être capable de comprendre et d'intégrer ça sur ce message qui est au fond commun à tous les Chachmei Israël, à tous les maîtres du peuple juif, de s'améliorer, de grandir, de créer des meilleures versions de nous-mêmes dans tous les domaines de l'existence. C'est ça qui amène la Geoula, dont on espère, vena forou, que tout se transformera de manière exceptionnelle pour pouvoir amener la Geoula Shlema du peuple d'Israël, Bezrat Hashem.
Amen, amen. Et je retiens de ce que vous nous dites qu'il faut déjà avoir la volonté d'écouter, c'est déjà le début, et après il faut entendre, même si ça nous met en danger par exemple, si ça va nous forcer à changer des choses dans notre vie. Rav Lemel, je vous remercie. On profite de l'occasion pour dire qu'il reste encore la possibilité d'aller écouter la Megillah, pas loin de chez soi. Avant Shabbat, on peut encore le faire, c'est important. Donner aussi, faire des cadeaux, des petits cadeaux, hein, c'est juste tisser le lien à des gens qui sont autour de nous. On essaie de mettre deux mets différents et toujours penser aux pauvres. Ravi Lilemel, je vous remercie. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pourim, puisqu'on va en profiter jusqu'à la dernière heure. Et ensuite, Shabbat Shalom. Bonsoir à vous.
Shabbat Shalom et Purim Sameach.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai, Purim Sameach et Shabbat Shalom. Rav Mordechai, vous voulez vous intéresser, vous attacher à une phrase clé, phrase particulière comme les Chachamim savent les trouver dans un texte. En fait, il faut savoir que la Megillah, c'est une sorte de matrice de l'histoire du peuple juif. Et là, dans ce texte, les Chachamim ont trouvé une phrase particulière, qui résume peut-être même quelque part l'histoire des Juifs à travers les temps.
Purim Sameach. Alors effectivement, avant de commencer, effectivement, nous à Jérusalem, on sera en train de fêter Purim. Fêter Purim, c'est-à-dire le michté, le festin, et les michloach manot et les cadeaux qu'on va s'envoyer donc dimanche. C'est la particularité de Jérusalem, où on doit faire Purim le 15 du mois de Hadar et non pas le 14. Mais comme le 15 tombe Shabbat, donc on va faire la fête dimanche. Mais par contre, on va tous lire la Megillah, tout le peuple juif, l'ensemble du peuple juif va lire la Megillah jeudi soir et vendredi matin. À Paris et dans les villes dans lesquelles on fête Purim, donc le 14 du mois de Hadar, bah vous fêterez Purim vendredi. Mais c'est une particularité cette fois-ci, le peuple juif sera uni dans la lecture de la Megillah, jeudi soir et vendredi matin. Alors c'est intéressant le mot Megillah, parce que le mot Megillah, c'est même, la lettre même, Gila, ça veut dire dévoiler. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est quoi la lettre même ? C'est intéressant parce que la calligraphie des lettres dans le Sefer Torah doit toujours se faire avec d'autres lettres. Par exemple, le même s'écrit avec un kaf et un vav. Si vous regardez dans le Sefer Torah, vous verrez que le même s'écrit avec le kaf et le vav. Kaf et Vav, c'est une valeur numérique de 26. 26, c'est la Gematria, la valeur numérique du nom de Dieu. Et donc, la Megillah va nous dévoiler Dieu dans son attribut de miséricorde, la manière dont il intervient de manière complètement cachée. Alors moi, je voudrais m'intéresser justement à une des grandes clés de l'histoire du peuple juif, puisque en fait, la Megillat Esther, c'est une matrice politique, géopolitique, mais avant tout spirituelle, et après tout spirituelle, qui s'habille dans le politique et le géopolitique, mais c'est une matrice de l'histoire des 2500 dernières années du peuple juif. Alors, il y a une phrase qui est une phrase clé pour comprendre un petit peu parfois certaines périodes et peut-être même la période qu'on est en train de vivre. Au chapitre 6, verset 13, Haman vient raconter les malheurs qu'il a subis. Vous savez qu'à un moment donné, son plan semble très très bien marcher. Finalement, il vient pendant la nuit pour voir le roi et dire au roi « Je voudrais qu'on pende ce sale juif-là de Mordechai ». Le roi, qui lui, pendant la nuit, s'est fait raconter les chroniques du royaume et s'est fait raconter que Mordechai lui a sauvé la vie, ordonne à Haman, au contraire de le tuer, au contraire précisément, d'aller le mettre sur un cheval et de le promener dans la ville en lui faisant honneur et en faisant savoir que c'est ainsi que le roi récompense ceux qui lui ont fait du bien. Effectivement, Mordechai l'avait sauvé d'un complot qui est raconté dans la Megillah. Et là, Haman tombe, la chute d'Aman commence. Alors, après cet épisode, il vient et il raconte à sa femme, à Zeresh, et à ses astrologues, et à ses sorciers, et à ses amis, et à tous ses soutiens, il leur raconte qu'il y a en quelque sorte un bug dans le programme, les choses sont en train de se gâter. Et là, sa femme va lui dire une phrase, qui est une phrase très surprenante. Elle va lui dire, si ce Mordechai, devant lequel tu as commencé à tomber, Asher Achilotal Inpol et Fanav, s'il est miséra, Yehoudim, s'il fait partie du peuple juif, de l'engeance juive, eh bien, tu as commencé à tomber, Nafoltipol, tu tomberas, et tu tomberas de ta chute, et tu tomberas de ta chute, et de ta chute, tu tomberas. C'est-à-dire, tu n'arrêteras pas de tomber. C'est une phrase très surprenante. Qu'est-ce que ça veut dire si Mordechai fait partie du peuple juif? Mais c'est pour cette raison-là qu'il le haïssait, c'est pour cette raison-là qu'il voulait le tuer, c'est pour cette raison-là que Haman s'est fâché même avec l'ensemble du peuple juif, a décidé d'exterminer le peuple juif parce que Mordechai ne se prosternait pas devant lui et qu'il avait décidé d'en finir avec les juifs, la solution finale du peuple juif. Donc quel est le sens de cette phrase énigmatique où Zeresh me dit « s'il fait partie du peuple juif ?» Eh bien, la réponse, mes chers amis, est la suivante. Temps numéro 1, Haman et Zeresh sont des sorciers, ce sont des astrologues, ce sont des gens qui saisissent ce qui se passe dans le monde, mais qui n'ont pas une vue complète de ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Et ce verset ne peut pas s'expliquer autrement, nous dit le Rav Zamir Cohen et d'autres rabbinim, et plus avant des commentateurs de l'époque, il y a 300 ans, et les commentateurs d'il y a 500 ans, tous les commentateurs nous disent ce verset ne peut pas s'expliquer autrement que par l'appel à la Kabbalah, au Sod, au sens le plus caché, le plus secret donc, du verset. Temps numéro 1, eux, ces astrologues, ne voient rien. Les astrologues voient le bout du bout du bout de ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Temps numéro 2, dans les mondes supérieurs, il y a des forces spirituelles qui sont des forces qui permettent de faire pleuvoir un flux de bonté sur le monde et un flux de bonté et de protection sur le peuple juif. Lorsque, temps numéro 3, le peuple juif a fauté, et c'est le cas dans cette histoire, puisque les Juifs vont participer au festin de Achashverosh, qui a été organisé pour fêter, entre guillemets, bien cette idée que le Beth Amikdash, le temple, ne serait plus jamais reconstruit, pour fêter en fait la disparition spirituelle du peuple juif, et peut-être même sa dissolution, en quelque sorte, dans les nations du monde. Et les Juifs sont allés, sont participés à ce festin, contre l'avis de Mordechai. Et puis, quelques années plus tôt, ils s'étaient même prosternés devant la statue que le roi Nabucodonosor avait érigée. Bref, leur dossier s'était alourdi. Ces forces spirituelles qui permettent d'avoir un influx positif, un flux d'abondance sur le peuple juif, à un moment donné, elles peuvent s'arrêter par les fautes du peuple juif. Temps numéro 4. Quand le peuple juif fait Teshuva, s'unit, les gens reviennent les uns vers les autres, et tous ensemble, on revient vers Hachem, ces forces se réactivent. Temps numéro 5. Quand Aman va s'adresser à Assuérus, il lui dit, tu sais, ce peuple-là, il dort. En fait, il dort. Qui dort? C'est Dieu. Dieu dort. Dieu n'est pas là. Il ne les surveille plus. C'est terminé. Il dort. Leur Dieu dort. C'est fini. On va pouvoir s'attaquer à eux. Mais ce que Aman a ignoré, c'est qu'à un moment donné, la tchouva du peuple juif, la teshuva, l'étude de la Torah de Mordechai, le fait que tous les juifs se soient remis à écouter Mordechai, le fait que les juifs aient eu peur de ce décret d'anéantissement et qu'ils aient décidé d'écouter le grand de la génération, ça a suscité un flux de miséricorde dans le ciel. Et donc, à partir du moment où ce flux se manifeste à nouveau et où ceux qui veulent nous attaquer commencent à chuter, les choses se renversent. Et là, il y a un fait fondamental. C'est une des grandes erreurs de nos ennemis, et c'est ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est qu'ils se mettent en tête de nous exterminer. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand ils nous exterminent, ils réveillent chez nous une force spirituelle qui s'appelle la Teshuva. Il y a une force spirituelle qui est l'union. Et en fait, même si c'est pendant un court instant, tout le monde fait Teshuva et tout le monde revient les uns vers les autres et tout le monde revient vers Hachem. Ce retour-là, ce double retour, il éveille la Rachamim, la miséricorde, et il met fin au décret d'anéantissement. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, si ce Mordechai devant lequel tu as commencé à tomber fait partie de ces juifs, c'est-à-dire, il fait partie de ce peuple qui est capable, par sa teshuva, par son retour, de réveiller la miséricorde divine, ça veut dire que leur Dieu ne dort plus, ça veut, entre guillemets, parce qu'il n'a jamais dormi, mais leur Dieu est à nouveau affairé à les protéger des mauvais décrets, alors tu ne peux que tomber. Et ça, c'est une leçon qui est absolument extraordinaire parce que c'est une des grandes matrices de l'histoire du peuple juif. Maïmonide dit, dans les périodes de mauvais décrets, on est bien cruel contre le peuple juif si on ne fait pas teshuva. Parce que c'est précisément cette teshuva qui va réveiller la rachamim, qui va réveiller la miséricorde et qui va mettre fin aux mauvais décrets contre le peuple juif. Et cette matrice est une matrice fondamentale parce que tout au long de l'histoire du peuple juif, à chaque fois qu'il y a eu des mauvais décrets et qu'il y a eu teshuva, il y a eu retour et tout s'est arrangé. Et là, je crois que c'est quelque chose qui est très, 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 très en prise avec notre époque, où on a vécu un 7 octobre, on a vécu un décret, on a vu petit à petit, militairement, les choses se retourner. On a vu que le peuple juif se porte bien mieux que ses dirigeants, parce qu'il est très uni, et parce qu'il prie, et parce qu'il fait teshuva, et parce qu'il se reprend, et parce que les gens se parlent. Et donc le peuple va mieux que ses dirigeants. Et donc, ça suscite une certaine miséricorde. Et c'est une grande matrice. C'est l'erreur que font tous nos ennemis. Et c'est ce qui se passe à chaque fois qu'ils font cette erreur. Eh bien, il y a un retour de miséricorde parce qu'il y a un réveil de teshuva et d'unité dans le peuple. Voilà, je crois qu'on se souhaite à toutes et à tous pour Yom Sameach. On se souhaite à toutes et à tous de vivre un moment d'unité, un moment d'ahava, un moment de rapprochement, un moment de partage. Et donc, à partir de là, de continuer à réveiller cet attribut de miséricorde divine qui nous protège tout au long de l'histoire, en espérant qu'on n'aura plus besoin de passer par des épisodes aussi douloureux que le 7 octobre et qu'on méritera la délivrance finale pour laquelle nous prions tous trois fois par jour. Voilà, Purim Sameach et Shabbat Shalom.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Donc c'est à mon tour de vous dire à toutes et à toutes Purim Sameach et Shabbat Shalom.
Shalom loy boy na boy, Hashem loy ishmari, shalom shokat shoy bay.